Monsieur l'empereur, mesdames et messieurs, on m'a demandé de traiter ce soir d'un sujet somme toute assez délicat. D'une part parce qu'il a fait beaucoup de bruit dans l'histoire et que, de manière directe et indirecte, il est toujours et encore d'actualité à notre époque. Il s'agit de l'affaire Galilée. Galilée étant ce savant italien de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe, qui a été condamné pour ses idées sur le mouvement de la Terre. Si on regarde à travers l'histoire, il n'a pas été le premier à le faire, à soutenir que la Terre bougeait. Au IIIe, IVe siècle avant Jésus-Christ, un philosophe grec, astronome du reste, Aristarque de Samos, avait aussi soutenu une thèse tout à fait similaire. On notera que c'était la première fois dans l'histoire où on voyait cette thèse du mouvement de la Terre autour du Soleil. Elle réapparaîtra donc un peu plus tard en Europe au cours de, disons, du début de la Renaissance, avec des gens comme le cardinal Nicolas de Cuse ou le chanoine Nicolas Copernic. Ça va comme ça? Mais j'avance peut-être un peu. En fait, ce dont nous allons discuter ce soir, c'est surtout des rapports entre la science et la foi. Tels qu'on peut les voir se dessiner à travers l'affaire Galilée. Alors, puisqu'il s'agit d'un sujet un peu technique, je ne voudrais pas embêter outre mesure les gens. Technique à deux titres d'ailleurs, puisqu'il s'agit ici de théologie souvent, je ne suis pas théologien de formation, et il s'agit aussi de droit canon. Je ne suis non plus canoniste. Par contre, j'ai une formation en physique et l'astronomie ayant été depuis mon plus jeune âge mon violon d'ingres, je pense que je peux peut-être en dire un peu quelque chose. Il en reste pas moins que s'il y a des erreurs ou des choses du genre qui se glissent ce soir, j'en prends l'entière responsabilité et la faute est mienne. Alors, puisqu'il s'agit finalement d'un débat sur ce que nous pouvons observer, il ne serait peut-être pas mauvais de se demander ce qu'on peut voir au niveau de ce qu'on appelle en philosophie les phénomènes. Je vous demanderai de faire l'expérience suivante, cette expérience mentale. Imaginez que vous êtes en plein milieu d'un champ, que le soleil se couche, que votre vision peut porter sur 360 degrés pour tout l'horizon, et que vous ayez tout à coup à l'esprit de décrire les mouvements des astres. Vous voyez, bien sûr, le soleil qui se couche à l'ouest, vous l'avez vu se lever à l'est préalablement, vous verrez que dans une même soirée, des étoiles qui étaient plus brillantes que d'autres étaient plus à l'est, et bon, à mesure que le temps passait, elles se retrouvaient plus à l'ouest. Une certaine étoile, qu'on appelle l'étoile polaire, a plutôt tendance à rester fixe pour autant qu'on puisse le mesurer à l'œil nu. D'une manière générale, bon, tout semble se déplacer autour de nous. Si vous étendez vos périodes d'observation, c'est-à-dire que vous allez continuer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs années, vous verrez que certaines étoiles ont tendance à décrire des mouvements assez étranges. Par exemple, vous mesurez leur position à chaque soir et vous vous apercevez qu'après un certain moment, elles ont ce qu'on appelle, depuis l'époque grecque, un mouvement rétrograde. C'est-à-dire qu'elles vont à l'encontre du mouvement général que vous croyez ou que vous aviez cru initialement pouvoir leur assigner. Ce mouvement a été donc remarqué depuis déjà belle lurette, depuis l'Antiquité, en fait, l'Antiquité grecque. Et en fait, il est plutôt à l'origine de ce qu'on a appelé le système géocentrique. Manifestement, si vous prenez, je ne sais pas, une personne qui n'aurait jamais entendu parler du mouvement de la Terre ou du mouvement autour du Soleil, disons que vous prenez un étudiant qui n'aurait jamais rien appris. Bon, c'est facile à trouver, aller dans nos polyvalentes. Vous le mettez en plein milieu du champ dont je parlais tout à l'heure et vous lui demandez de vous donner son avis sur le mouvement et presque spontanément, comme toutes les civilisations du monde, il aura tendance à dire que nous sommes immobiles et le ciel se déplace autour de nous. En vertu de ce que je décrivais un peu plus tôt, ces fameux mouvements rétrogrades et les mouvements différentiels, c'est-à-dire les vitesses différentes des cinq planètes, par exemple, qu'on connaissait à l'époque, jusqu'à l'époque de Galilée, plus le mouvement de la Lune et le mouvement du Soleil, les astronomes, à travers les temps, en sont venus à proposer différents modèles pour décrire ce qu'on pouvait observer. Aristarque de Samos, lui, avait passablement simplifié les choses et avait décidé de placer le Soleil au centre. Par contre, l'autorité d'un astronome, l'astronome Hipparque, qui allait vivre avant Jésus-Christ, allait de toute son autorité appuyer le système géocentré, c'est-à-dire ce système qui considère que nous sommes immobiles au milieu du monde et tout tourne autour de nous. Le système allait être perfectionné par un astronome alexandrin, un grec, donc, un égyptien hellénisé, un certain Claude Ptolémée, qui allait devenir célèbre puisque son ouvrage, écrit vers les années 180 après Jésus-Christ, est resté sans doute le manuel de base pour ce qui est des études astronomiques essentiellement quelque chose comme 14 siècles. Alors, si vous me permettez, je dirai au tableau. Mais sans vouloir être trop technique, il est évident que le mouvement des corps, comme les planètes, par exemple, le fameux mouvement rétrograde dont je parlais tout à l'heure, c'est une espèce de mouvement comme ceci. On semble les voir aller dans une certaine direction, de soir en soir, si on mesure leur position, on finit par s'apercevoir qu'ils vont tout le temps vers l'est. Et à partir d'un certain moment, ils semblent rétrograder, d'où le nom de mouvement rétrograde, vers l'ouest. Et phénomène étrange, après une période de rétrogradation, ils reprennent leur mouvement initial vers l'est. Ceci étant dit, maintenant, les astronomes ont essayé de pondre différents modèles. Le modèle le plus évident était de situer la Terre au centre. Et je fais une coupe maintenant, si vous voulez, suivant un plan de l'écliptique. Et de dire, eh bien, les différents corps tournent autour d'elle, suivant des orbites différentes. Orbites qui sont, si on veut, d'autant plus grandes que la planète tourne lentement. Naturellement, pour des raisons esthétiques, les Grecs, c'est la civilisation dont nous sommes actuellement tributaires pour nombre de domaines, entre autres pour l'esthétique, considéraient naturellement que les orbites des planètes, du Soleil, de la Lune, ne pouvaient être que circulaires. Le mouvement circulaire étant considéré par presque de manière quasiment unanime dans la Grèce antique comme étant le mouvement le plus naturel. Or, pour expliquer la rétrogradation dont j'ai parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'on ne parvenait pas à en rendre compte uniquement en termes d'orbites circulaires simples, telles que je veux les dessiner ici. Les Grecs, Hipparque et Ptolémée, c'est peut-être leur grande contribution, ont inventé le système de l'épicycle. L'épicycle était finalement un cercle centré sur l'orbite initiale qui, pour des raisons absolument inconnues, mais qui facilitaient les calculs des positions, devait porter la planète. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on voit d'abord l'épicycle tourner autour de la Terre et la planète tourner sur l'épicycle. Ça ressemble à un système assez complexe à la longue, ça finit par ressembler à un grand mécanisme d'horlogerie et on considérait qu'il y en avait pour à peu près chaque planète. Après un certain moment, on s'est aperçu qu'ajouter un épicycle, ce n'était pas suffisant, il fallait éventuellement les multiplier de manière telle que les dernier modèle pondu par Claude Ptolémée dans son ouvrage L'Almageste faisait état de quelque chose comme 51 cycles pour décrire le mouvement de cinq planètes, la Lune et le Soleil. C'était donc assez lourd, c'était une mécanique assez difficile. Elle rendait cependant compte, dans une certaine mesure, des mouvements tels qu'on pouvait les observer. Cependant, avec le passage du temps, la dégradation de l'accord entre les prévisions du modèle et les observations devenait rapidement assez catastrophique. C'est ce qui implique pourquoi, bon, quelqu'un comme le roi Alphonse X le Sage, roi de Castille, allait demander au XIIIe siècle à des astronomes de recomputer les tables astronomiques. Ça allait donner des tables alphonsines qui seront en usage courant peut-être, jusqu'à l'époque de Copernic. Alors, le problème maintenant, c'est le suivant. Plusieurs personnes s'étaient rendues compte que physiquement, ça ne tenait pas tellement debout ce qu'on essayait de proposer comme mouvement. Et bien des gens se sont dit, ben, il y aurait peut-être des manières de simplifier les choses. Comment les simplifier? Pour des raisons parfois obscures, sur lesquelles se penchent encore les historiens des sciences, les modèles héliocentristes, c'est-à-dire les modèles qui postulaient un mouvement de la Terre, sont rapidement devenus, si j'ose dire, à la mode, pour ne pas dire se sont imposés. Même dans les mouvements, dans les modèles géocentristes, rapidement, les astronomes en sont venus à concéder ce qu'on appelle le mouvement local de la Terre, c'est-à-dire son mouvement sur elle-même en 24 heures. Et suite à quoi, l'espèce de, comment dire, de modèle ancien venait donc commencer à être, si vous voulez, battu en brèche. C'était le cas d'un certain Proutenius qui allait d'ailleurs être appelé à participer à la réforme du calendrier sous le pape Grégoire au XVIe siècle. Si je retourne maintenant sur la question de Galilée est un homme donc qui naît en 1564. Il sera au cœur donc des transformations qui vont s'opérer dans les dernières années du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, ce qu'on a appelé la révolution astronomique. Galilée donc a un prédécesseur qui s'appelle Nicolas Copernic. C'est quelqu'un de maintenant assez illustre lui aussi, autant que Galilée. C'est un chanoine polonais. Il est né à Torun, sur les bords de la Vistule. Il a fait ses études en Italie, entre autres à l'université de Bologne, qui était peut-être une des plus grandes universités à l'époque. Et rapidement, son oncle, qui était à l'époque évêque de Torun, l'avait envoyé étudier la médecine. Il avait besoin de médecin. Copernic avait bien sûr étudié la médecine, a obtenu ses grades, mais il s'était aussi principalement intéressé à l'astronomie. Alors, il avait décidé de reprendre un peu le problème à son compte. Et Copernic allait devenir célèbre en remettant en selle le fameux modèle héliocentriste. Ben, il s'agissait tout simplement d'une tentative, encore une fois, de décrire les phénomènes tels qu'on les observait. Mais cette fois-ci, on pensait tenir une solution quant aux problèmes physiques. Vous aurez sans doute remarqué que la Renaissance était particulièrement intéressée par le phénomène lumineux. Et on le prenait à titre de symbole, si vous voulez. Bon, le soleil étant un symbole, par exemple, de la lumière divine au centre de l'univers. Et Copernic n'a donc pas eu de difficulté à dire, ben moi, je prends le soleil et je le place au centre de l'univers, et ce qui se passe, c'est que c'est la Terre qui tourne autour. La Lune tourne autour de la Terre, et les autres planètes tournent aussi autour du Soleil, suivant des orbites que l'on connaît déjà, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, la Lune tournant autour de la Terre. C'était les planètes que l'on connaissait à l'époque. Vous remarquerez que ça semble apporter une simplification comparativement aux 51 cercles nécessités par le système de Ptolémée. Or, encore une fois, si on fait des observations avec un... Si on fait des observations En prenant pour base de calcul un système dit héliocentriste comme celui-là, avec des orbites circulaires pour les différentes planètes, on arrive aussi à des différences majeures au niveau, avec les observations, entre les prévisions et les calculs. Un point tel que Nicolas Copernic a été obligé de faire lui aussi des adjonctions d'épicycles pour les différentes planètes. Alors, en général, dans l'histoire officielle de l'astronomie, on vous dit qu'après Copernic, ça y est, tout roulait sur des billes et que ça allait tout seul. Enfin, on venait de trouver la chose. Il n'était pas évident qu'on pouvait avoir une telle simplification. La preuve, ceux qui ont lu l'ouvrage de Nicolas Copernic, qui s'appelait « Des revolutionibus orbem celestis », en français « Des révolutions des orbes célestes » ou « Des corps célestes » suivant les traductions, remarqueront que dans ces tout derniers chapitres, paradoxalement, le système héliocentriste, supposé simplifier les choses, arrive à un nombre d'épicycles, enfin de cercles en général, de cycles comme on disait à l'époque, supérieur à celui de Ptolémée. Non pas 51, mais 56. Comme quoi, l'histoire n'intéresse pas souvent les scientifiques, parce qu'il faut effectivement les compter tous, et il y en a bel et bien 56. Alors, ça ne simplifie pas les choses. Copernic est né en 1473, il meurt en 1543, et naturellement, il hésite à publier le résultat de ses travaux, à un point tel qu'il ne recevra les impressions de son livre, son ouvrage, « Des revolutionibus », sur son lit de mort uniquement. Le résultat est que, naturellement, une certaine propagande s'en est emparée. Il a dit que, bon, ben, il craignait les foudres de certaines autorités ecclésiastiques ou autres, et qu'il a hésité à publier. Je pense que ce n'est pas le cas, à mon avis, et je ne suis pas seul à le penser d'ailleurs. Plusieurs sont d'avis qu'il a hésité à publier parce qu'il savait très bien que son système était plus compliqué que celui qu'il devait remplacer. Alors, il a essayé d'ailleurs plusieurs tentatives de simplification des choses, mais puisque ça reste évidemment technique, je n'entrerai pas là-dedans, mais enfin, ce à quoi je veux en arriver, c'est que plusieurs personnes se sont mis à considérer les deux systèmes, celui de Ptolémée et celui de Copernic. Et naturellement, on en est arrivé, à l'époque de Galilée, à pouvoir penser que le système copernicien était le bon. Somme toute, il y avait quand même des possibilités de simplification lorsqu'on utilisait certaines méthodes de calcul, assez aberrante du point de vue physique, mais quand même efficace au point de vue prédictionnel, entre autres la méthode du punctus equus, ou punctus equam, je ne me souviens pas exactement de la déclinaison latine. Néanmoins, je n'entrerai pas dans les détails. On en est arrivé à une époque, à l'époque de Galilée, où les deux systèmes peuvent être considérés comme rivaux quant au niveau des prédictions que l'on peut faire, et c'est très important. Je ferai peut-être une petite digression pour parler du contexte historique. Galilée naît où? Il naît dans l'Italie de l'après-concile de Trente. Je ferai remarquer que c'est cette époque qui a vu la permanence ou la constance de la césure, de la cassure dans la chrétienté latine entre, d'une part, ceux qui sont restés catholiques et ceux qui sont devenus protestants. À cette époque, la contre-réforme bat son plein, c'est l'après-concile de Trente, et la chrétienté catholique a décidé qu'il fallait réagir, c'est la contre-réforme. C'est l'époque, souvenez-vous, des grands théologiens, jésuites, entre autres, Suarez. C'est l'époque de la lutte contre les hérésies protestantes et de la reconquête de certains territoires qui étaient passés à l'hérésie. Souvenez-vous, par exemple, encore une fois, ce sont les jésuites qui seront le fer de lance de cette reconquête, par exemple en Bohême, en Bavière, en Rhénanie. Ces jésuites s'appuient sur la culture telle qu'on la conçoit à l'époque. Et dans ce qui leur sert de vaisseau amiral, ils ont construit une série d'écoles, de collèges, dont la plus célèbre était à l'époque ce qu'on appelait le Collège romain, le Collegium Romanum, et qui est devenu aujourd'hui l'Université grégorienne. Ces jésuites s'appuyait bien sûr sur le thomisme en matière doctrinale, en matière de foi, et il s'appuyait aussi sur son pendant, c'est-à-dire Aristote, en matière de science. Ce qui entraînera un peu des déboires dans la mesure où bien des gens commençaient à mettre en doute le système tel que proposé par Aristote. Ainsi, cette culture aristotélicienne, donc, qui est moussée par les jésuites, qui veulent en faire plus ou moins l'espèce de ferment autour duquel on pourra recomposer l'unité de la chrétienté, eh bien, naturellement, elle s'oppose jusqu'à un certain point à ce qu'on a appelé l'humanisme tel qu'on le concevait dans la Renaissance, et elle s'oppose aussi à l'esprit moderne qui commence alors à apparaître. Deux papes principalement vont régner lorsque Galilée vivra et enseignera et aura des démêlés avec les autorités ecclésiastiques. Ce seront les papes Paul V et les papes Urbain VIII. Je parlerai surtout ici d'Urbain VIII. Urbain VIII qui est Matteo Barberini, c'est un noble italien d'une famille assez riche, assez célèbre. À l'époque où il était cardinal, il avait, disait-on, où il affichait un certain libéralisme que beaucoup lui reprocheront plus tard. C'est un pape lettré, c'est un pape amateur d'art, c'est un pape qui aime s'entourer d'artistes, de savants, ça a créé une espèce peut-être d'aura, une espèce de d'impression à sa cour depuis l'époque où il était cardinal. C'est aussi quelqu'un qui souvent ne néglige pas l'avancement des membres de sa famille. Par exemple, son neveu, qui est un cardinal aussi, lorsque Urbain VIII sera nommé pape. Peut-être aussi une dernière chose, c'est aussi l'époque de la guerre de 30 ans. Galilée, on peut dire que c'est meurt en 1642. La guerre de 30 ans va de 1618 à 1648. Donc, la fin de la vie de Galilée sera marquée par cette guerre. Qu'est-ce que c'est que la guerre de 30 ans? La guerre de 30 ans, c'est cette guerre entre les protestants de l'Empire, du Saint-Empire romain germanique, et le pouvoir impérial, là-dedans, la couronne des Habsbourg. Il y aura des allées et des venues. L'empereur estime, un peu comme le fera Louis XIV à la fin du siècle, lors de la révocation de l'édit de Nantes, l'empereur Ferdinand estime qu'il est de son devoir en tant que souverain catholique de voir à l'avancement de la seule vraie foi et de combattre l'hérésie. Et on en viendra donc dans une situation de guerre qui éclatera justement à Prague, en Bohême, l'actuelle République tchèque. Ce sera un contexte qui marquera, tout bien sûr, toute la fin de la vie de Galilée. Il y aura des allées et des venues, des reflux. Par exemple, au début, les armées impériales, sous la conduite de Wallenstein et de Tilly, auront le dessus, mais rapidement, principautés, des royaumes protestants, entre autres le Danemark, la Hollande et éventuellement aussi la Suède, entreront dans le ring et viendront au secours des princes protestants et réussiront par le fait même à contrebattre les efforts du pouvoir impérial pour gagner contre ces princes révoltés. Alors, c'est un peu le contexte dans lequel nous vivons. C'est le contexte politique. La papauté sera appelée à intervenir, naturellement. À un certain moment, je pense que c'est en 1627, si ma mémoire est bonne, les armées protestantes du roi de Suède, Gustave Adolphe, sont presque aux portes de l'Italie. Il devient alors évident que, pour la première fois, on peut voir des armées protestantes peut-être déboucher sur le versant sud des Alpes, ce qui amènera d'ailleurs un certain redressement de la part de différentes autorités. Les jésuites seront encore une fois impliqués là-dedans. On demandera au pape de, de cesser d'être aussi libéral. On lui demandera de faire une croix sur plusieurs de ces plusieurs choses qui lui tiennent à cœur, histoire de défendre la catholicité avec plus de vigueur. Alors, c'est un peu ce contexte que, dans ce contexte que l'affaire Galilée va éclater. Peut-être un bref résumé de la carrière de Galilée avant 1616, 1616 étant la date de ses premières démêlées, si on veut, avec l'Église. Alors, Galilée est un Florentin, Florence, qui est une ville de Toscane. Il est né d'un père musicien, Vincenzo Galilei. Vincenzo Galilei qui, en tant que musicien, avait conduit d'ailleurs lorsque le petit Galileo, c'est son prénom, Galileo Galilei, était encore enfant, des expériences assez intéressantes sur les systèmes de musique bien tempérés. Il était aussi fabricant de luth, ce qui fait que, il s'intéressait beaucoup aux questions de cordes. Et souvent, il lui arrivait de pendre des poids après des cordes pour pouvoir en tester d'une part la résistance et en même temps essayer de voir quelle était la variation des notes avec les longueurs, avec les tensions, avec les densités des cordes qu'on pouvait utiliser. Alors, Galilée, naturellement, sera influencé par ce genre de choses. Il fera ses études, bien sûr, dans sa ville natale, à Florence, et éventuellement, il ira lui aussi étudier à l'université de Bologne, et éventuellement aussi à Pise, où finalement, on lui offrira un poste de professeur. C'est suivant la... est-ce que c'est une légende, il semble qu'il y ait suffisamment de vérité historique pour l'appuyer. Ce serait justement dans la cathédrale de Pise, en voyant un candélabre se balancer, que Galilée aurait, pour la première fois... compris ou enfin, se serait intéressé au fameux mouvement du pendule. Et c'est peut-être quelque chose d'intéressant dans la mesure où cette fameuse loi du pendule de Galilée est la première loi physique telle qu'on pourrait la... Enfin, la première loi physique moderne, puisqu'elle est mathématisée. Cette fameuse loi de la fréquence comme étant une fonction inverse de la longueur de la corde pour une même basse. Et c'est à cette époque aussi où Galilée commence à s'intéresser à des expériences de physique, des expériences sur la chute des corps. Tous, sans doute, se souviennent de cette image, qui est presque une image d'Épinal, d'un Galilée laissant tomber deux poids, deux masses en même temps, du haut de la tour penchée de Pise, et s'apercevoir qu'à toute fin pratique, elle touche le sol en même temps, contrairement à ce qu'on croyait dans l'école aristotélicienne, où on disait que la masse la plus lourde devait nécessairement tomber plus rapidement. Galilée allait parvenir à pousser ce système un peu plus loin, à ses expériences un peu plus loin, avec des expériences pour des boules qu'il laissait tomber le long de plans inclinés. Il allait se servir de règles graduées pour mesurer les distances parcourues dans des temps de plus en plus, ce qu'il espérait de plus en plus courts, ce qui lui amènera à travailler sur des notions de chronomètre. Et il allait éventuellement en sortir quelque chose de très important, c'est le principe de l'inertie, qui est de nos jours assez célèbre. Alors, Galilée est professeur à Pise, et éventuellement aussi, il ira enseigner à l'université de Padoue. Durant toutes ces années, c'est un... disons jusque vers les années 1590-1600, c'est un professeur relativement classique. Puisqu'il est professeur de mathématiques, il doit aussi, par le fait même, enseigner l'astronomie. Mais je remarque qu'à l'époque, l'astronomie ne l'intéresse guère, de son propre aveu. Dans des lettres écrites à ses amis, il dit que ça ne l'intéresse pas vraiment, et puis que pour lui, ce qui est plus intéressant, ce sont effectivement les mathématiques. Et il a par contre en grippe le système aristotélicien, dans la mesure où les expériences sur le monde réel qu'il fait, lui démontre que la physique telle qu'enseignée par Aristote conduit à des erreurs. C'est au bénéfice d'Aristote où on peut dire ceci. La physique aristotélicienne semble quand même aller d'instinct, de la même manière que mon étudiant un peu cancre dont je parlais tout à l'heure, qui allait presque invariablement ou avec une probabilité très forte déboucher sur un système géocentré si on le mettait en plein milieu d'un champ et qu'on lui demandait de rendre compte des observations. Une physique faite à premier abord a toutes les chances de ressembler à la physique d'Aristote, par exemple. Aristote ne peut pas concevoir qu'une chose se meuve sans être mue, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'un moteur. Si mon crayon se déplace, c'est parce que quelque chose le meut. dès que j'arrête de le mouvoir, il s'arrête. Ça semble aller de soi. À peu près quoi que l'on puisse faire, que l'on puisse regarder, mettons, je ne sais pas moi, un navire sur la mer, sur une rivière, quelque chose que l'on lance en l'air, si on arrête de le mouvoir, il ne se meuvre plus. Alors, le problème de Galilée, c'est que Galilée en arrive à dire que, ben non, ce qui se passe, c'est que si vous arrêtez de mouvoir quelque chose, il aura tendance à persister dans le mouvement qu'il avait. C'est le fameux principe d'inertie dont je parlais tout à l'heure. Et par le fait même, il en est arrivé à remettre en question à peu près tout le système physique aristotélicien. Comme à cette époque, la philosophie et la science, la physique, l'astronomie étaient intimement liées, la société issue de la Renaissance était une société assez... qu'on pourrait dire tissé serré, il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de compartimentation des différentes disciplines du savoir. Et Galilée était naturellement un homme de son époque, et s'il lui arrivait de remettre en question Aristote sur des questions d'astronomie ou de physique, encore une fois, il allait l'étendre aussi à des questions de philosophie. Si vous lisez de ses écrits, vous verrez d'ailleurs que souvent il parle des philosophes aristotéliciens. Galilée se considère comme un philosophe, et c'est le terrain d'élection où il aime discuter, où il aime briser des lances. Par le fait même, il en viendra à s'intéresser au système astronomique, puisque de manière concomitante avec le système aristotélicien, Aristote a assez peu écrit d'ailleurs sur l'astronomie, même si son traité des Cello n'est pas nécessairement un modèle astronomique, un modèle cosmologique tel qu'on pourrait l'entendre chez Ptolémée. Il en reste pour moins vrai que Galilée, parce qu'il est souvent anti-aristotélicien, en arrivera à douter du système de Ptolémée, et il prendra fait et cause, donc par le fait même, pour le système rival, c'est-à-dire celui de Copernic. Plusieurs phénomènes vont se passer aussi, entre autres la nova de 1604. Qu'est-ce qu'une nova? Une nova, c'est une étoile nouvelle. C'est une étoile, d'après les connaissances astronomiques actuelles, c'est une étoile qui est située suffisamment loin de la Terre, qu'on ne voit pas à l'œil nu, et qui explose sous l'effet de sa pression gravitationnelle. C'est un phénomène assez beau à voir, on en voit assez rarement. Peut-être une fois tous les siècles et demi, on parvient à en voir une assez importante, et celle de 1604 en était une. C'est une étoile qui est rapidement devenue l'étoile la plus brillante du ciel. Le phénomène a duré environ un an et demi, à un point tel qu'on pouvait presque la voir, si on avait d'assez bons yeux, en plein jour. Alors, une des thèses d'Aristote était que le monde se divisait en deux, un monde dit supralunaire, c'est-à-dire sous l'orbite de la Lune, qui comprenait la Terre, qui était le lieu, entre autres, de la corruption, et un monde sublunaire, qui était le monde de la corruption, et un monde supralunaire, qui était un monde plutôt incorruptible. La nova était une preuve comme quoi le monde des étoiles pouvait aussi être corruptible dans le sens qu'il y avait des changements. Les choses pouvaient changer, et la nova de 1604 était une preuve, justement, de ces changements possibles. Quelques années plus tard, c'est en l'an 1609, Galilée entend parler de ce qu'on appelait la lunette de Hollande. La lunette de Hollande, c'est tout bêtement le fameux télescope, un tube avec deux lentilles, une plano-convexe, l'autre plano-concave, à chacun des bouts. Et si vous regardez à travers, vous apercevez que les objets que vous verrez sont agrandis. Galilée a, semble-t-il, le premier l'idée de tourner cette lunette vers le ciel. Et il fera une série de découvertes naturellement très intéressantes, très importantes, vont le propulser peut-être au pinacle de la célébrité. Par exemple, il sera le premier à découvrir les cratères lunaires, les phases de Vénus, les satellites de Jupiter, et toute une série d'étoiles que l'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, il devient assez célèbre. Et Galilée est un personnage assez étonnant. Il a un petit côté arriviste, comme beaucoup de scientifiques. D'ailleurs, j'en connais assez qui répondraient à ces critères-là. C'est quelqu'un qui aime les honneurs. C'est quelqu'un qui aime, jusqu'à un certain point, la bonne vie. Lui aussi aime s'entourer de gens importants. Et il aime être reçu par les grands de ce monde. Et par le fait même, la la célébrité lui convient bien, sans doute le pense-t-il, au point que il en arrive à se dire que actuellement, il serait temps qu'on passe au système de Copernic en astronomie. Puisqu'il a fait des découvertes en astronomie, il s'estime peut-être le meilleur astronome d'Europe. Il y a un problème avec le système héliocentriste. C'est le suivant. C'est que dans le livre de Josué, c'est le chapitre 10, le verset 12, on lit la chose suivante. « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » « Soleil, arrête-toi sur Gabaon. » La plupart des exégètes ont compris cet extrait du livre de Josué comme étant une preuve de l'immobilité de la terre et de la mobilité du soleil, à un point tel que c'était l'argument massu avancé contre le système de Copernic. Ce n'est pas la seule référence scripturaire, d'ailleurs je l'ai cité ici rapidement au passage, Ecclésiastique 1.4, le psaume 18, verset 6, le psaume 92, 1, psaume 103, 5, et l'Ecclésiastique, je pense, 43, 26. C'est une série d'extraits des Écritures qui, à première vue, semble aller renforcer le système géocentriste, donc celui de Ptolémée, et d'aller contre le système de Copernic. Alors, notre ami Galilée en arrive à croire que, actuellement, il y a un empêchement à l'adoption par l'Église catholique du système de Copernic, et c'est l'exégèse qu'on fait, entre autres, du livre de Josué. Il s'exprime d'ailleurs à ce niveau, dans une lettre qu'il écrit à la grande-duchesse Christine de Lorraine, qui avait épousé le grand-duc de Toscane à l'époque. Il est florentin, donc toscan. Et dans une lettre au père Castelli, qui date de 1613. Plusieurs sont son avis, entre autres le père Castelli et le père Ricciosi, qui va le soutenir et lui dira, écoutez, oui, il est évident que à ce niveau-là, ce ne serait pas la première fois où on n'aurait pas fait une lecture littérale de la Bible. Alors, il commence à enseigner souvent que le système de Copernic, s'il est en contradiction avec l'Écriture, c'est probablement que l'exégèse qu'on en a fait n'est pas la bonne. Il faut, entre guillemets, moderniser l'exégèse. Alors quelqu'un va se formaliser, va s'offusquer, va se scandaliser de cette chose, c'est le père Caccini, qui est un dominicain. Et il dénoncera, d'ailleurs à Florence, en chaire, et Galilée, et par le fait même, le système de Copernic. Nous sommes alors en 1615, c'est sous le pape Paul V. Naturellement, dans le sillage de ses découvertes astronomiques, Galilée a été invité à la cour pontificale, il a eu l'occasion d'être reçu en audience par Paul V, et il a connu aussi le cardinal Barberini, qui sera le futur Urbain VIII. Et il discute d'ailleurs avec le cardinal Barberini, et Barberini lui demande s'il a des preuves un tant soit peu concrètes à l'appui du système de Copernic. À cette époque-là, outre peut-être une relative simplification sous certains aspects, la seule preuve que Galilée peut avancer, c'est une preuve qui ne tiendra pas, mais une preuve qu'il estime solide, c'est l'argument des marées. Il en parlera donc dans un ouvrage qui s'appelle « Le Trattato del flusso e reflusso del mare », le traité des flux et reflux de la mer. C'est ainsi qu'on appelait les mouvements de la marée à l'époque. L'ouvrage paraît en 1616 et rapidement, Caccini et d'autres vont faire en sorte qu'il soit traîné devant le Saint-Office. Puisque à cette époque, le système de Copernic est un système dont on peut discuter librement. Alors, en 1616, il y a un procès devant le Saint-Office et interdiction est faite de soutenir pour véritable, je souligne l'adjectif, pour véritable le système copernicien. Je puis peut-être vous lire le décret. Alors, c'est un décret du Saint-Office. Je passe rapidement sur les premiers paragraphes. Je cite, « Et parce qu'il est aussi venu à la connaissance de la sacrée congrégation sudite que cette doctrine de Pythagore, ainsi s'appelle-t-on l'héliocentrisme, fausse et tout à fait contraire à la divine écriture sur le mouvement de la terre et l'immobilité du soleil, enseignée aussi par Nicolas Copernic dans son ouvrage « De revolutionibus orbium celestium » et par Didacus Astunica dans son ouvrage sur Job, s'est déjà répandue et a été adoptée par beaucoup, comme on peut le voir d'après une certaine lettre imprimée d'un père Carme, dont le titre est « Lettre au révérend père maître Paul-Antoine Foscarini, sur l'opinion des pythagoriciens et de Copernic touchant le mouvement de la Terre et la stabilité du Soleil et le nouveau système pythagoricien, etc., etc. » dans laquelle le dit père s'efforce de montrer que la sudite doctrine sur l'immobilité du Soleil au centre du monde et le mouvement de la Terre est d'accord avec la vérité et n'est point opposé à l'Écriture sacrée. La congrégation, pour que cette opinion ne se répande plus à l'avenir au détriment de la vérité catholique, a été d'avis de suspendre les 10 ouvrages de Nicolas Copernic et de Didacus Astonicus jusqu'à correction de prohiber entièrement et de condamner le livre du père Paul-Antoine Foscarini, de prohiber également tous les autres livres enseignant la même doctrine, comme par le présent décret, elle les défend tous et chacun, les condamne et les suspend. En quoi de quoi le présent décret est signé, bon, et blablabla. Galilée s'informe auprès d'amis ecclésiastiques, entre autres auprès du cardinal Barberini, et on lui dit, écoutez, ce qu'on peut en faire, c'est que vous avez le droit de l'enseigner à titre d'hypothèse. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'affirmer que son mouvement est réel, ce qui aurait pour cause d'entraîner un doute au niveau de l'interprétation des Saintes Écritures. Et naturellement, le cardinal Barberini fait notifier à Galilée par un envoi qui date de 1616 qu'il n'a plus à présent le droit d'enseigner, de soutenir pour véritable le système de Copernic. Galilée signera ce document, donc en 1616, ce qui, on le verra plus tard, va l'obliger en conscience, puisqu'il a signé. Naturellement, le cardinal Barberini, futur Urbain VIII, lui dit qu'il a permission de le soutenir et de l'exposer à titre d'hypothèse. Pourquoi cette condamnation en 1616, donc, de la doctrine copernicienne par le Saint-Office? La première chose qu'il faut remarquer, c'est que l'héliocentrisme, la doctrine copernicienne au XVIIe siècle, est loin de faire l'unanimité. Si pour nos contemporains actuellement, c'est presque une vérité indubitable que la Terre tourne autour du Soleil, au XVIIe siècle, c'est loin d'être le cas. La majorité des gens sont d'avis, tout comme dans l'Antiquité, que c'est la Terre qui est immobile et le Soleil et les autres planètes qui tournent autour. Donc, si on prend jusqu'à un certain point l'argument de l'opinion générale, ça joue contre l'héliocentrisme au XVIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve comme telle, de preuve qui pourrait d'une part infirmer le système ptoléméen et renforcer la position du système copernicien. Naturellement, il y a le problème dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire la transposition du débat du domaine purement astronomique, purement physique, au domaine de l'exégèse. Or, la libre interprétation, entre guillemets, est la grande crainte des autorités catholiques à l'époque. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on est actuellement dans une période de lutte très intense avec les protestants. Et à cette époque, la libre interprétation, elle est protestante. Alors, cette libre interprétation, les protestants s'en servent, en usent pour attaquer, nier, entre autres, le dogme de la transsubstantiation et la réalité des sacrements. vous vous souvenez sans doute de cet aphorisme. Je pense que c'est Bossuet qui écrivait que tout protestant est un pape avec sa Bible sous le bras. C'est un peu là où ça mène. La grande hantise de la papauté à l'époque était de voir cette espèce d'éclatement de l'exégèse. Et je pense qu'ils ont tout fait pour essayer de l'empêcher. Alors, ceci d'une part. Je peux citer quelques noms, certaines personnes qui, lorsqu'on y regarde de plus près, étaient opposées au mouvement de la Terre. Je peux nommer, entre autres, ça surprendrait sans doute beaucoup de nos partisans d'une science qui progresse et qui fait l'unanimité dès qu'elle est affirmée. On peut nommer, entre autres, François Viète. François Viète, qui est un algébriste, le père de l'algèbre moderne, il vit au début du XVIIe siècle, et lui, le mouvement de la Terre, le système de Copernic, il n'y croit absolument pas. On pourrait en dire autant de Francis Bacon. Francis Bacon, qui est ce philosophe anglais, qui est le père, jusqu'à un certain point, de l'empirisme moderne. Or, Francis Bacon, un bon empiriste, regarde les choses, regarde les arguments de part et d'autre, et il n'y croit pas au mouvement de la Terre. Naturellement, un des grands astronomes du temps, c'est un professeur du collège romain, le jésuite Grassi, le père Grassi, et aussi le père Schorner, un de ses collègues qui va enseigner, entre autres, à Bologne. Donc, la décision du Saint-Office prise en 1616 est plus ou moins d'accord avec l'opinion générale. Il faut bien remarquer que c'est un décret disciplinaire du Saint-Office, je tire les renseignements du dictionnaire apologétique de la foi catholique, écrit au début du siècle, et on y lit ceci, sous la rubrique « Valeur des décrets de 1616 » et maintenant aussi de 1633, on dit « Quel est le sens et la portée des considérants motivant ces décrets? Le considérant unique du décret de 1616 est celui-ci. La doctrine du mouvement de la Terre, fausse et contraire à l'Écriture, se répand et fait courir des dangers à la foi catholique. C'est un considérant, donc, d'ordre doctrinal. Ces considérants n'empêchent pas les décrets de rester disciplinaires. À ces décrets, Galilée, comme tout fidèle, devait obéissance extérieure complète. Il ne pouvait donc ni enseigner le système de Copernic, ni publier les ouvrages pour le défendre. Les décrets disciplinaires n'ayant pas pour but de qualifier une proposition ou une doctrine ne peuvent le faire officiellement. On peut seulement se demander quelle note théologique les auteurs des décrets de 1616 et de 1633 associaient dans leur esprit au système de Copernic. La chose n'est pas évidente. Il semble pourtant ressortir de l'examen des divers documents annexés au décret que le système de Copernic était considéré comme hérétique. Hérétique au sens du début du XVIIe siècle. Aujourd'hui, le mot hérétique a un sens très net. Il n'est strictement applicable qu'à quiconque nie une vérité de foi définie, c'est-à-dire une vérité révélée et proposée comme telle par l'Église enseignante. Dans un sens plus large, il peut cependant s'entendre de celui qui nierait une vérité de foi divine, c'est-à-dire une vérité révélée, mais non officiellement proposée comme telle. Par exemple, saint Thomas d'Aquin qui ne croit pas au dogme de l'Immaculée Conception. C'est sans doute de foi actuellement, parce qu'il existe un dogme qui a été promulgué depuis. Mais on ne peut pas dire que saint Thomas d'Aquin est hérétique parce qu'il ne croyait pas à l'Immaculée Conception. Je poursuis. À l'époque de Galilée, ces deux sens n'étaient peut-être pas toujours aussi nettement distingués. En tout cas, c'est évidemment dans le sens large que l'opinion de Galilée était taxée d'hérésie. Les qualificateurs de 1616 et les juges qui adoptèrent cette conclusion crurent que cette proposition « sol stetit », le soleil bouge, entendue au sens propre, était une proposition de foi divine. En cela, il faisait erreur, puisque cette proposition, bien que révélée, ne l'est que dans son sens métaphorique. Mais pour eux, Galilée était hérétique, puisqu'il niait précisément, dans son sens propre, sans motif suffisant, cette proposition révélée. Si Galilée fut condamné seulement comme suspect d'hérésie, ce n'est pas que ses juges doutassent de la fausseté de sa doctrine, mais c'est que la preuve juridique n'était pas faite que l'accusé crut réellement adhérer à cette doctrine. Alors, en 1616, Galilée n'est pas, au sens propre, inquiété par le décret contre la doctrine de Copernic. Comme tel, on ne lui fait pas un procès. le procès de 1616 est fait contre Copernic. Entre-temps, Galilée va commettre deux ouvrages, ce qu'on appelle le Saggiatore, en français l'essayeur, et le Dialogo delle due massimi sistemi del mondo, pardonnez mon italien, qui en français se dit Dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde. Il s'agit naturellement de du système copernicien et du système ptolémaïque ou ptolémien. Alors, Galilée, donc, par le fait même, en publiant cet ouvrage, rompt avec la défense formelle qui lui a été faite en 1616. Naturellement, il va défendre le système copernicien comme tel, principalement dans le discorso ou le dialogo. Alors, puisqu'il ne le soutient pas seulement à titre d'hypothèse, il est, dans ce cas-là, il rompt. Il rompt finalement la promesse qu'il avait signée en 1616. Ce qui lui, le dialogo paraît en 1632, oui, et par le fait même, en 1633, il sera traîné devant le tribunal du Saint-Office. Une chose que je noterai peut-être pour un moment ultérieur, c'est que dans le Saggiatore, entre autres, apparaissait une théorie. Galilée soutenait une théorie de type atomistique. Une théorie de type atomistique, un peu comme l'entendait le philosophe grec Démocrite. C'est-à-dire où on considérait qu'il y avait quatre types d'atomes, là, le feu, le fer, l'eau et l'air. Le feu, la terre, l'eau et l'air, voilà. Et un historien des sciences dans les années 1980 allait imaginer une thèse dont je vous ferai part tout à l'heure. Mais à noter que une partie du Saggiatore défendait des théories atomistiques. Donc, dans son dialogue sur les deux plus grands systèmes du monde, Galilée prend parti pour Copernic et, naturellement, il écrit avec une plume très sarcastique et ironique. Jamais il n'avait été, c'était un partisan du genre, si vous voulez, il aimait très souvent briser des lances avec ses adversaires, mais encore jamais n'avait-il été aussi loin. Il met en jeu dans son dialogue trois personnages, un aristotélicien, j'ai pardonné ma prononciation ce soir, il est tard, un copernicien, naturellement, qui a toujours le beau jeu, et une personne en principe neutre, un troisième personnage en principe neutre. Naturellement, le troisième larron s'arrange tout le temps pour disconvenir de ce que dit l'aristotélicien et convenir de ce que dit le copernicien, c'est évident. Et ce qui est peut-être une erreur de sa part, un des arguments utilisés par l'aristotélicien là-dedans, aristotélicien d'ailleurs dont le prénom est Simplicius, c'est un des arguments que le pape Urbain VIII, c'est à l'époque le cardinal Matteo Barberini, avait utilisé contre l'argument des maris de Galilée en 1615. Alors, plusieurs affirment que le pape Urbain VIII, donc en 1632, en prend ombrage. Bon, c'est une façon de voir les choses, mais sans doute que Rome réagit à des impératifs un peu moins personnels. Quoi qu'il en soit, Galilée vient de rompre la défense qui lui est faite en 1616, et Rome réagit. Urbain VIII va lui intimer l'ordre de se présenter devant le Saint-Office à Rome. Galilée comprend que, les choses risquent d'aller un peu mal. Il commence à tergiverser, il essaie de faire jouer ses relations. L'ambassadeur du grand-duc de Toscane, ses amis dans les différents ordres, à travers la hiérarchie de l'Église. Mais finalement, encore une fois, Urbain VIII lui intime l'ordre, au début de février 1633, de se présenter devant le Saint-Office. Et le 16 février, Galilée est à Rome. À noter que, en général, suivant la procédure du temps, les gens qui étaient appelés à comparaître devant le Saint-Office, en général, étaient amenés enchaînés, semble-t-il. Pour Galilée, on fera une exception. On lui permet de ne pas l'être. Il arrive même d'ailleurs dans la litière du grand-duc de Toscane. Il est vrai qu'il est malade ou qu'il se dit malade. On lui accorde aussi, dès qu'il arrive à Rome, de nombreuses faveurs quant à ses fréquentations, quant à ses résidences. Il n'est pas reclus, ainsi que le voudrait, par exemple, la procédure. Il est libre de rester, par exemple, il demeurera principalement chez l'ambassadeur du grand-duc de Toscane. Alors, Le premier interrogatoire arrivera donc le 16 avril et le Saint-Office lui posera les questions suivantes. Le premier interrogatoire, donc, on lui pose la question suivant les procédés ordinaires du Saint-Office, il portait sur deux points. Un, le prévenu avait-il dans le dialogo enseigné l'opinion condamnée en 1616, enfreint la défense de l'index et violé la promesse formelle faite par lui à cette époque, donc en 1616. Bon, c'est ce qu'on appelle, en termes canoniques, semble-t-il, la question du facto mériticale, du fait hérétique. Et la deuxième question, le prévenu avait-il intérieurement adhéré à l'opinion condamnée et l'avait-il soutenu pour vrai? C'était la question de l'intentio hereticalis, encore une fois, d'après la procédure du temps. Alors, il y a deux choses ici. La question de l'intention, avait-il l'intention de répandre en toute connaissance de cause une doctrine jugée hérétique et était-il au courant que, étant donné ce qu'il avait signé, il avait enseigné la doctrine qu'on lui interdisait en 1616 d'enseigner. C'est essentiellement ça. Si on voit actuellement, c'est très logique. Le Saint-Office a très bien cerné la question. Galilée va répondre, il comprend qu'il est dans l'eau chaude, il répond ceci. Galilée affirmait qu'il n'avait enseigné le système de Copernic que comme une théorie hypothétique. Il prétend, à ce niveau-là, s'être limité à ce qu'on lui avait permis de faire par la bouche du cardinal Barberini, en 1616. Par contre, tel ne fut pas l'avis des théologiens consultants. Des théologiens consulteurs du Saint-Office. Il y en avait trois, et tous trois furent unanimes à déclarer que le mouvement de la Terre était affirmé catégoriquement et positivement dans le dialogo. C'est-à-dire que Galilée ne le soutenait pas seulement à titre d'hypothèse. C'est là toute la différence, la nuance. Les inquisiteurs se rangèrent à cette conclusion. Dès lors, la question du facto meriticale était tranchée, et l'on passa à la question de l'intentio. À plusieurs reprises déjà, le prévenu avait répété qu'en son fort intérieur, il ne tenait pas l'opinion de Copernic pour absolument vraie. Était-ce bien là le fond de sa pensée? Pour essayer de s'en rendre compte, Urbain VIII ordonna le 16 juin de faire subir à Galilée ce que, dans la procédure du temps, on appelle l'examen rigoureux. L'accusé devait être menacé de la torture. Si, malgré cela, il persistait à nier ce qui semblait à tous les juges la flagrante vérité, il serait jugé coupable et, comme tel, condamné à l'abjuration et à la prison. Le 21 juin, Galilée comparut à nouveau devant le Saint-Office et on lui réitéra la demande. Croyez-vous, avez-vous déjà cru au mouvement de la Terre? Avant 1616, répondit Galilée, je tenais les deux systèmes de Ptolémée et de Copernic pour scientifiquement équivalents et comme ayant une égale probabilité. Depuis, les ordres que j'ai reçus à cette époque, j'ai toujours tenu pour indubitablement vrai le système de Ptolémée. Mais, lui dit-on, vos ouvrages montrent positivement le contraire. Dites la vérité, sans quoi on en viendra à la torture. Galilée ayant répété sa pensée, dans les mêmes termes, on le congédia. Le fait est que la menace de torture était, en général, l'arme le plus lourd utilisée par le Saint-Office. Il était rarissime, suivant les procédures de l'époque, qu'on en vint à la torture véritable. D'ailleurs, Galilée, à cette époque, avait plus de 60 ans, et la procédure du Saint-Office interdisait de soumettre à la torture, pour quelque raison que ce soit, les gens de plus de 60 ans. Alors Galilée, contrairement à ce qu'une certaine opinion essaie de répandre, n'a jamais été torturé par le Saint-Office. La menace de torture n'ayant produit aucun effet, il ne restait aux inquisiteurs donc à remplir le reste des instructions données par le pape Urbain VIII. Galilée, ayant persisté à affirmer la droiture de ses intentions, ne pouvait être qualifié d'hérétique formel, mais il restait véhémentement soupçonné d'hérésie. En conséquence, le 22 juin, il fut conduit au couvent des Dominicains de Sainte-Marie-sur-la-Minerve et il comparut en présence des cardinaux du Saint-Office pour entendre sa sentence. Le livre du dialogo devait être prohibé par un décret public. Son auteur serait détenu en prison à la discrétion de la congrégation et réciterait pendant 3 ans, 3 fois par semaine, les psaumes de la pénitence, la sentence prononcée. Galilée lui signa son acte d'abjuration dans lequel il se déclarait à bon droit soupçonné d'hérésie, détestait ses erreurs, promettait de se soumettre aux pénitences qu'il lui était imposé et de ne plus soutenir les opinions condamné. Et en effet, il allait s'y conformer, jusqu'à la fin de ses jours. Après sa condamnation, contrairement à ce qu'une certaine opinion a répandu, Galilée n'est pas inquiété outre mesure. Il vit au palais ducal à Rome pendant un certain temps. Bien sûr, il est assigné à résidence. On considère que son cas est quand même assez important. Il a défié carrément les autorités ecclésiastiques. Il est revenu sur sa parole. On lui a ensuite autorisé à aller habiter à Sienne, dans le palais de son ami, Monseigneur Piccolomini, qui était évêque de Sienne à l'époque. Et à la fin de 1633, on l'autorise à être interné dans sa propre villa d'Acetri, près de Florence, et où il vivra jusqu'à la fin de sa vie. Si jamais il a existé une prison dorée, je pense que c'est bien celle-là. Galilée, il va y recevoir de nombreux visiteurs, entre autres le poète anglais Milton, qui a écrit le Paradise Lost. Il vit entouré de ses disciples Viviani, Torricelli, qui sera l'inventeur du baromètre. Galilée meurt en 1642 et à partir de 1645, il devient progressivement aveugle. C'est une fin quand même assez atroce pour quelqu'un qui était un astronome. Encore une fois, je me permets de faire remarquer ceci. Quand Galilée meurt, il meurt après avoir reçu les derniers sacrements. Il sera enterré d'ailleurs dans la cathédrale de Florence, même si le pape refusera qu'on lui élève un monument. On considère que ses opinions assez peu orthodoxes entachaient peut-être sa réputation de savant, même si on lui reconnaissait là, des mérites quand même assez inhabituels. Il en reste pas moins vrai, et c'est un point important, que Galilée est mort catholique. Galilée avait affirmé à plusieurs reprises son intention, sa volonté de mourir dans la foi de l'Église. J'en arriverai rapidement à ce qu'on appelle les mythes autour de Galilée. Naturellement, l'affaire Galilée semble, à première vue, créer un contentieux entre, d'une part, la science et, d'autre part, la foi. Toute une mythologie, toute une mythique s'est emparée de l'affaire Galilée et a essayé d'en faire une arme de guerre, principalement contre l'Église catholique. Entre autres, cette fameuse citation « Et pour ces moives qu'il aurait prononcée immédiatement après sa condamnation de 1633, et pour ces moives, et pourtant elle se meut. » Je signale que à cette date, les recherches historiographiques nous permettent de démontrer que la première fois on peut la retrouver, c'est en 1761, donc presque un siècle et demi après l'événement, dans un ouvrage, dans les querelles littéraires de l'abbé Itrail, édité à Paris en 1761. Donc, il y a peu de chances que ce soit une parole authentique. D'ailleurs, l'eût-il prononcé que Galilée, par le fait même, aurait été immédiatement déclaré relapse et aurait subi des châtiments sans doute qu'on avait bien voulu lui éviter. Je l'ai dit, encore une fois, Galilée, c'est un mythe de croire qu'il aurait apostasié après sa condamnation. Il mourra effectivement, recevant les derniers sacrements, il sera enterré dans la cathédrale de Florence. Et encore une fois, bien sûr, il n'a pas été torturé ainsi que je le disais. Un des arguments dont on sert pour... l'affaire Galilée sert surtout à quoi? Elle sert essentiellement à mettre en doute plutôt la question de l'infaillibilité pontificale d'une part, à tort d'ailleurs, et la question de la révélation des Écritures, le raisonnement des adversaires de la foi et le suivant. Si l'Écriture affirme que la terre est immobile, c'est le soleil qui se meut, alors qu'en est-il en réalité? Quelle valeur peut-on lui donner, puisque l'Écriture se trompe? Si elle s'est trompée une fois, peut-être se trompe-t-elle plusieurs fois. Un pape s'est penché sur cette question-là, sur finalement la question du sens littéral des Écritures. C'est le pape Léon XIII, pape libéral, il est vrai en politique, mais qui est doctrinalement assez solide. Alors, Léon XIII, dans son encyclique Proventissimus du 18 novembre 1893, déclare, je le cite, « De ce qu'il faut défendre vigoureusement l'Écriture sainte, il ne résulte pas qu'il soit nécessaire de conserver également tous les sens que chacun des pères, des pères de l'Église, ou des interprètes qui leur ont succédé, employés pour expliquer ces mêmes Écritures. Ceux-ci, en effet, étant donné les opinions en cours à leur époque, n'ont peut-être pas toujours jugé d'après la vérité au point de ne pas émettre certains principes qui ne sont maintenant rien moins que prouvés. Il faut donc distinguer avec soin dans leurs explications ce qu'ils donnent comme concernant la foi ou comme lié avec elle, ce qu'ils affirment de commun accord. En effet, pour ce qui n'est pas de l'essence de la foi, les saints ont pu avoir des avis différents, ainsi que nous en avons nous-mêmes. Telle est la doctrine de saint Thomas. Celui-ci, dans un autre passage, s'exprime avec beaucoup de sagesse en ces termes. Ici, Léon XIII cite saint Thomas. Pour ce qui concerne les opinions que les philosophes ont communément professées, qui ne sont pas contraires à notre foi, il me semble qu'il est plus sûr de ne pas les affirmer comme des dogmes, bien que quelquefois elles soient introduites dans le raisonnement au nom de ces philosophes. C'est le cas, entre autres, du géocentrisme au nom d'Aristote dans le système, à l'appui du système thomiste. Donc, au nom de ces philosophes, et de ne pas les noter comme contraires à la foi, pour ne pas fournir aux sages de ce monde l'occasion de mépriser notre doctrine. Fin de la citation de saint Thomas. Et Léon XIII continue. D'ailleurs, quoique l'interprète doive montrer que rien ne contredit l'Écriture, bien expliqué, dans les vérités que ceux qui étudient les sciences physiques donnent comme certaines et appuyées sur de fermes arguments, c'est ce qui a toujours fait défaut à Galilée et à Copernic, je continue, il ne doit pas oublier que parfois plusieurs de ces vérités données aussi comme certaines ont été ensuite mises en doute et laissées de côté. Que si les écrivains qui traitent de physique franchissent les limites assignées aux sciences dont ils s'occupent, s'avancent sur le terrain de la philosophie en émettant des opinions nuisibles, le théologien peut faire appel aux philosophes pour réfuter celles-ci. À mon sens, c'est le texte du magistère qui règle le mieux la question. En effet, contrairement à une opinion répandue, parfois de manière abusive, dans les milieux, principalement dans nos milieux catholiques traditionnalistes, je crois et qu'il est évident que jamais l'Église n'a insisté sur le sens littéral de toute l'Écriture. À preuve, on parle dans l'Écriture des quatre coins de la terre. Et je pense qu'il est de notoriété publique à présent que sur une sphère, quatre coins, c'est assez difficile à trouver. On parle aussi de la main de Dieu dans l'Écriture. Je ne sais pas si Dieu a une main, mais ça me semble assez difficile à prendre au pied de la lettre. Souvenez-vous aussi que dans l'Écriture, Dieu se repent. Si Dieu se repent, ça veut dire que Dieu s'est trompé. Est-ce qu'on peut raisonnablement admettre que Dieu se trompe? Non. Alors forcément, il y a de la métaphore. Il y a une interprétation métaphorique, une interprétation qui n'est pas littérale. C'est sans doute le cas du fameux miracle du soleil de Josué qui est à l'origine de la condamnation de Copernic. Souvenez-vous, par exemple, du miracle de Fatima. Ça s'est passé en 1917, donc il y a quelque chose comme 79 ans maintenant. Et, somme toute, 70 000 témoins environ ont vu le soleil bouger. D'après ce que l'on sait aujourd'hui des théories astronomiques, si le soleil avait décrit le mouvement en termes réels, si le soleil avait décrit le mouvement qu'on lui a vu effectuer à Fatima, la Terre aurait dû quitter son orbite. Or, par le fait même, ne l'ayant pas fait, il est évident, à mon sens, que le miracle que Dieu a donné à ses 70 000 témoins est justement un miracle, en ceci qu'il sort des choses ordinaires. Le fait est maintenant que, quand on regarde les choses... Où en étais-je? Quand on regarde les choses à partir du point de vue du XVIIe siècle, par contre, les fameuses preuves dont parle Léon XIII dans son encyclique, elles manquent. Elles manquent à Copernic, elles manquent à Galilée, elles manqueront à tous, jusque vers le milieu du XVIIIe siècle. En effet, c'est à peu près vers le milieu, vers les années 1750 environ, où on peut dire que, dans les milieux scientifiques, entre autres, dans les milieux que je qualifierais entre guillemets, le « entre guillemets » d'éclairé, parce que n'oublions pas que c'est le siècle des Lumières et que, bon, les meilleures lumières de tous les temps n'ont pas été dispensées à ce siècle-là, loin, peu s'en faut. Il est évident que vers 1750, les preuves commencent à abonder à l'effet que le système géocentriste ne tient pas et que le système copernicien est fondé en raison, est fondé empiriquement. Ce qui se passe, entre autres, bon, si ça intéresse certaines personnes, c'est un phénomène astronomique qu'on appelle l'aberration stellaire, découvert par un astronome, l'astronome Bradley, dans les années 1740. Et c'est aussi l'époque où la mécanique newtonienne, telle que Newton l'a conçue, commence à être utilisée pour faire les calculs peut-être les plus précis qu'on avait jamais effectués jusqu'à date, entre les calculs les plus précis des trajectoires des différentes planètes, de la Lune, et éventuellement, on finit par obtenir l'accord maximal avec des degrés de précision qu'on n'avait jamais obtenu entre les observations que l'on peut faire et les prédictions que l'on faisait, ce qui apportait beaucoup d'eau au moulin de la théorie copernicienne. D'ailleurs, la fameuse condamnation contre Copernic n'allait pas être aussi virulente que l'on le dit. Déjà, dès 1664, elle était adoucie, c'est-à-dire que, encore une fois, une trentaine d'années, donc après le procès Galilée, il était encore permis de soutenir le système copernicien à titre d'hypothèse. C'est ce qui va être fait, entre autres, par l'abbé Gassendi. Gassendi qui est passé à l'histoire comme étant le découvreur d'un phénomène optique qu'on appelle la diffraction. En 1757, le pape Benoît XIV va faire supprimer la formule générale qui prohibait les livres et qui enseignait l'immobilité du soleil et le mouvement de la terre. Et finalement, le 25 septembre 1822, le pape Pie VII va approuver le décret du Saint-Office qui autorise le système de Copernic sans restriction. Et c'est à peu près d'ailleurs l'époque où, il commençait à être enseigné aussi dans à peu près toutes les universités d'Europe. C'était pas toutes les universités d'Europe qui l'enseignaient à la fin du 18e siècle. Notons qu'à la fin du 19e siècle, une partie du protestantisme, principalement les fondamentalistes, s'opposant toujours à l'héliocentrisme, ce seront toujours des gens qui tiendront, en vertu du sola scriptura, encore une fois, et du fondamentalisme qui souvent lui est associé, tiendront pour nul le mouvement de la Terre et préféreront la croix immobile. Alors, en gros, le temps passe et je vais, dans ce cas-là, essayer d'abréger les choses. Qu'est-ce qu'on peut en penser? L'affaire Galilée, je pense, actuellement, était un épisode assez douloureux, assez houleux certainement, des relations entre l'Église et la science. Je ne pense pas qu'on puisse, en vertu des raisons que j'évoquais un peu plus auparavant, faire un procès à l'Église pour sa condamnation de Galilée. C'était, si on veut bien être honnête, historiquement parlant, quelque chose de tout à fait habituel à l'époque. On condamnait des gens pour des opinions, l'Église comme d'autres. Or, l'Église ne pouvait pas vraiment aller au-delà de son époque quant aux procédures judiciaires. Et encore une fois, tel que je le faisais remarquer, les preuves allaient très minces. Bon, en fait, en réalité, Galilée n'en avait même pas. Je peux citer, par exemple, l'opinion de quelqu'un comme Pierre-Simon de Laplace. Pierre-Simon de Laplace est un des astronomes les plus éminents de la fin du 18e siècle, début du 19e. C'est d'ailleurs celui qui mettra vraiment en forme, d'une manière opératoire, si on veut, la mécanique newtonienne, le système de Newton. Et Laplace écrit donc que les preuves du mouvement de la Terre de Galilée ne sont qu'analogiques. En soi, elles ne sont pas décisives. Il y a une seule tradition qui soutient que Dieu et le monde sont de nature différente. Et c'est celle à laquelle nous appartenons. Encore une fois, je pense que ça a dû surprendre bien des astronomes du 20e siècle de s'apercevoir que, sans doute contre leur volonté, contre leur intention, ils en arrivaient à montrer que la science n'avait rien à craindre de la foi. Bien sûr, il y a encore à notre époque d'énormes préjugés matérialistes chez tout ce qui se pique d'être scientifique, à un point que souvent, ils ne voient pas la poutre qu'ils ont dans l'œil quand ils accusent l'Église, par exemple, au niveau du procès de Galilée, d'avoir fait de l'idéologie, c'est leur accusation, ben, ma foi, on peut les accuser d'en faire autant, puisque pour la plupart d'entre eux, ce sont souvent des matérialistes, des athées. J'ai l'air de finir un peu abruptement, mais il est déjà tard le soir et je pense que je vais terminer là-dessus. Rapidement, peut-être s'il y a quelques questions. Je semble m'en aller un peu trop loin. Oui. Oui. Ferdinand Combette, oui. Pas seulement que la théorie est héliocentriste. J'en parlais d'ailleurs avec l'abbé Herbach tout récemment. Il me semble que... Bon, vous savez que Combette est quelqu'un qui a été le premier, d'ailleurs, dans l'histoire à bien comprendre la Bible, hein, parce que, d'après lui, c'est évident qu'elle est écrite en copte et qu'il a été le premier à s'en apercevoir. Donc, il a été le premier à être capable de s'en servir, d'après lui, toujours. Naturellement, Combette a aussi a été le premier à trouver un continent imaginaire, le fameux continent de Mu. Il a été le seul à le trouver, malgré que le nombre de personnes qui arpentent la Terre est à nos jours assez élevé, mais bon, Combette est le premier à le trouver. Naturellement, en se basant sur son interprétation de la Genèse, la Terre n'est pas immobile pour Combette, hein? Elle tourne autour d'un axe qui passe par Jérusalem. Elle a un mouvement de 365 jours, si je me souviens bien, autour d'un axe qui passe par Jérusalem, et cet axe est le centre du monde, enfin bref... Autant qu'à moi, je ne pense pas qu'il y ait d'argument. Tant au point de vue des observations, il met en doute ce qu'on appelle les parallaxes, là, c'est-à-dire peut-être la preuve la plus solide que nous ayons à l'appui du mouvement de la Terre. Vous pourrez voir ce que c'est qu'une parallaxe. Disons que vous visez une étoile à deux moments de l'année, une étoile qui est relativement proche de la Terre, disons à 10 ou 11 années-lumière, pour donner, faut fixer des idées, et vous prenez sa position relative au fond des autres étoiles sur un intervalle de 6 mois. Si vous voulez donner une idée, mettez votre pouce devant vous. Fermez l'œil droit, par exemple, et regardez sur quel fond votre pouce est situé. Maintenant, ouvrez l'œil droit et fermez l'œil gauche. Vous verrez que votre pouce s'est déplacé par rapport au fond. Revenez constamment. Vous verrez un certain déplacement par rapport au fond. C'est essentiellement le même principe. C'est ça, une parallaxe. Et naturellement, ce n'est pas énorme. Il s'agit de fractions, de degrés, de minutes d'arc. Mais... avec des appareils, des instruments relativement précis, on peut parvenir à les déterminer. Combette avance une réfutation qui, à mon sens, n'est pas très, très, très solide. Elle consiste essentiellement à dire que l'adversaire ment et nous trompe. Lors de l'éclipse de soleil totale qui s'y est passée, je pense que c'est en 52 ou quelque chose comme ça, enfin bref, une éclipse de soleil qui aurait eu à Mexico, lui et plusieurs autres personnes de l'Institut de géophysique seraient descendus dans un puits de 10 mètres, auraient fait osciller un pendule et auraient prouvé que, naturellement, ceci infirmait la théorie qu'en avait tirée Foucault et que, par le fait même, cette preuve avancée à l'appui du mouvement de la Terre n'en était pas une. Bon, enfin, à mon avis, pour dire rapidement les choses, j'estime que c'est farfelu, où le personnage est déjà assez douteux. Et c'est assez dommage, parce que je pense que dans les milieux catholiques traditionnalistes, beaucoup trop de gens vont sauter sur Combette comme un naufragé sur une bouée. Pourquoi? Encore une fois, c'est parce qu'on prend la thèse contraire de nos adversaires. Si nos adversaires, les modernes, sont des héliocentristes, remettre en question l'interprétation ou même la véracité de l'Écriture, nous, il faut la prendre au sens littéral. Or, si nous la prenons au sens littéral, nous tombons sur ce passage du livre de Josué, chapitre 10, verset 12, où finalement, il est affirmé, ou semble indiquer que le soleil tourne et que la terre est immobile. C'est faire le jeu de nos adversaires. Dans nos milieux catholiques traditionnalistes, la plupart du temps, les gens vont sauter sur Combette parce que Combette affirme que la Terre est quasi immobile et que c'est le Soleil qui tourne autour. Mais pour le reste, c'est absolument farfelu. Je pense que Combette est mort dans les années 60, si ma mémoire est bonne.